vous invite à tourner dans la première lettre de Jean. On continue notre série dans la première lettre de Jean. 1 Jean chapitre 5, ça achève, c'est le dernier chapitre. Bonjour à ceux qui sont sur la toile, qui nous écoutent ou qui visionnent ce discours d'aujourd'hui. Eh bien, on est content que vous soyez là, que vous vous greffiez à nous via la technologie. Alors, sentez-vous bien à l'aise de venir nous visiter parce que l'Église Le Sentier ouvre ses portes à tous. Alors, peut-être vous dites, ouais, mais moi, je ne suis pas un chrétien évangélique. Vous pouvez venir assister, participer. Si vous voulez être tranquille, assis en arrière, vous pouvez le faire. Sentez-vous bien à l'aise là-dessus. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets qui sont interreliés et on va parler d'amour et de victoire, aimer et vaincre. Et deux mots qui représentent pour nous, les chrétiens, deux défis, mais deux mots essentiels. Deux défis. Si vous consultez la toile, par exemple, et vous allez sur le site psychologie.com, psychologie avec un S, il y a une question qui est posée et je la trouve très pertinente. Pourquoi c'est difficile d'aimer? Je veux dire, la plupart des gens veulent être aimés, mais aimer, c'est une autre paire de manches. Et je trouve ça intéressant parce que ce qu'on nous dit sur cette plateforme-là, c'est que le romantisme est vendu en rose tous les 14 février et que le sexe est récupéré par des marchands. Le sentiment lui-même est devenu un bien de consommation qu'il convient d'acquérir. Aimer, c'est devenu un bien de consommation dans notre société. Ça nous dit que dans une société favorisant les solutions rapides, la satisfaction instantanée, les résultats sans effort, les recettes infaillibles et les assurances tout risque, l'amour est prié de se plier à nos exigences de rentabilité immédiate. Dans notre société, l'amour est prié de se plier à nos exigences de rentabilité immédiate. Tu me déçois, je te désire moins. Nous n'avons plus le cœur qui bat à l'idée de nous revoir, quittons-nous. Et c'est pour ça que si aimer, c'est devenu de la consommation, c'est certain que tôt ou tard, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Il y a quelque chose qui va briser. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est penser au bien de l'autre. Aimer, c'est se dépasser pour l'autre. C'est rechercher à ce que l'autre soit heureux par mon effort. Mais on vaut beaucoup plus, nous les êtres humains, sauf quelques exceptions, être aimé qu'aimé. Mais c'est là que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à aimer. Et c'est là que l'apôtre Jean veut nous amener. Il veut nous amener à croire dans une relation authentique avec Dieu qui va découler sur les autres. Alors, c'est pour ça que je vous invite à tourner dans 1 Jean, chapitre 5, verset 1. Est-ce que le PowerPoint est... OK, merci. Et donc, ce qu'on voyait au chapitre 4, on voyait les indices d'une communion authentique avec Dieu. Et ce qu'on va voir, nous, ici, c'est qu'on est appelé à renaître. Donc, une personne qui... Par exemple, peut-être quelqu'un parmi vous sur la toile qui nous écoutait. Le Seigneur, il est possible qu'il frappe à la porte de votre cœur puis qu'il vous invite à vivre une expérience avec lui. Et c'est pour ça, moi, je vous invite à demeurer avec nous jusqu'à la fin parce que je vais expliquer c'est quoi cette expérience-là qui peut changer votre vie et même le parcours de votre éternité. Il nous appelle à aimer et à vaincre l'opposition. Et c'est vraiment ces trois éléments-là qu'on retrouve dans ce passage-là, dans 1 Jean chapitre 5, les versets 1 à 5. Alors, c'est pour ça qu'on va se recueillir quelques instants pour que ce passage des Écritures puisse parler à notre cœur. Seigneur, on se remet devant toi parce que tu nous as rassemblés pour nous parler. Ta parole, elle est tellement grande, même si Ces textes ont été écrits des centaines d'années passées. Ces textes sont tout aussi pertinents pour notre société, pour nos cœurs aujourd'hui, parce que ça parle de réalité qui nous colle à la peau. Merci, Seigneur, de faire grandir notre amour pour toi, de faire grandir notre amour pour ta parole, de faire grandir notre amour pour les gens, afin que par nos vies, aussi imparfaites qu'elles sont, tu puisses manifester ton amour et rejoindre des gens, spécialement dans l'Outaouais et dans la francophonie. On te le demande dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Amen. Je vous ai mis à l'écran la version de la parole vivante parce que je trouvais qu'elle donnait un élan assez intéressant sur le texte. Ça va comme suit. « Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de nouveau et Dieu est devenu son Père. Mais celui qui aime Dieu son Père, qui l'a fait naître de nouveau, aime aussi les enfants de Dieu nés du même Père que lui. Comment pouvons-nous savoir si notre amour pour les enfants de Dieu est authentique? Lorsque nous aimons Dieu lui-même, c'est-à-dire lorsque nous mettons en pratique ses commandements. Car si on aime Dieu, on garde ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas accablants. Car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Qui peut être vainqueur du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Et donc, le Seigneur nous invite à renaître, à naître de nouveau. C'est ce que dit le verset 1. Ça dit que tout le monde qui croit en Jésus-Christ provient de Dieu, est né en conséquence ou devient en conséquence son enfant. Et quiconque aime celui qui a engendré, aime celui qui a été engendré par lui. Ici, il faut se mettre dans le contexte, Jean parle à des gens, à des chrétiens, parce qu'à cette époque-là, il y a des personnes qui laissent sous-entendre, qui propagent un faux enseignement que Jésus n'est pas vraiment Dieu. Et il y a des gens qui sont bouleversés par ça, parce qu'ils n'ont pas côtoyé Jésus. Jean, lui, a vécu avec Jésus. Il l'a touché, il l'a entendu, il a mangé avec lui, il a fait des voyages avec lui. Puis lui, il témoigne qu'il dit, non, c'est clair. Celui qui était annoncé d'avance, là, celui qui était venu pour nous sauver, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un extraterrestre, ce n'est pas une personne surdouée, c'est Dieu lui-même. Et là, il est en train de rappeler aux gens, écoute, si tu es né de nouveau, si tu es né de nouveau en mettant ta foi en Jésus-Christ qui est mort pour toi, oui, tu es chrétien, mais si pour toi Jésus n'est pas Dieu, mais là, à ce moment-là, tu mets ta foi dans une personne qui n'est pas ce qu'elle est. Et un des signes, un des éléments clairs qui confirme que tu es réellement né de nouveau, que tu es réellement sauvé, que tu es réellement un enfant de Dieu, que tu es réellement engendré par Dieu, c'est que tu vas aimer Dieu. Tu vas aimer Dieu. Et c'est pour ça que la première victoire, notre première victoire, c'est naître de nouveau, c'est d'être régénéré, c'est d'être sauvé. Et c'est pour ça que quiconque croit d'une manière constante, parce qu'il est né de Dieu, depuis qu'il a mis sa foi en Jésus-Christ, aime Dieu et ceux qui ont été régénérés par lui, ses enfants, nos frères et sœurs dans la foi. Le deuxième signe ou le deuxième indicateur, c'est que quand on est sauvé, on aime Dieu, puis on aime nos frères et sœurs dans la foi. Il y a un amour pour nos frères et sœurs qui grandit. Il y a un désir d'être avec eux. Vous allez en voyage, moi je me souviens, j'étais dans un avion récemment, et je vois une femme debout, est en train de lire la Bible. Ça m'a tellement réjoui. C'est comme si je ne la connais pas, cette femme-là, je ne sais pas son arrière-plan, mais de la voir en train de voir, elle lit la Bible. Ça me fait comme, ah, wow, c'est donc le fun. C'est comme si une autre sœur. Maintenant, j'ai pas pu parler avec elle, puis poser de questions, voir toute l'authenticité, mais juste de voir que ça l'a éveillé quelque chose en moi. Je dis, hey, c'est le fun. Vous allez quelque part, vous parlez, vous avez sûrement fait l'expérience, si vous êtes né de nouveau, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous découvrez qu'il est chrétien, tout de suite, hey, comment ça s'est passé? C'est comme si on se connaissait depuis tout le temps. C'est comme si on a des parents qui nous connectent, c'est comme si c'est la famille. Je me souviens, à un moment donné, j'étais au port de Montréal, je rencontre un marin qui est chrétien, on était deux, trois personnes, il nous invite sur son bateau, il nous fait à manger. C'est comme si on se connaissait depuis tout le temps. Puis là, on dit, on faut y aller, on travaille demain matin. Il dit, hé, on ne se reverra peut-être plus jamais avant l'éternité. Comment ça, on brise le party là? Ouais, vu de même, tu sais. Mais juste pour vous dire que quand on a passé par l'expérience de la nouvelle naissance, il y a un amour pour Dieu en nous qui grandit. Un amour pour les frères et sœurs qui grandit. Zane C. Hodge va dire, cet amour ne provient pas d'une chose aimable dans la personne elle-même, mais de celui qui l'a engendré. Et c'est Dieu qui le produit, cet amour-là. C'est Dieu qui le nourrit, cet amour-là. C'est lui et c'est son action. L'objectif d'un chrétien, ce n'est pas de devenir une bonne personne. Ça, c'est un effet secondaire. L'objectif d'un chrétien, c'est de découvrir son Dieu, qui, lui, son Dieu, va produire en lui un amour pour Dieu, un amour pour les autres. C'est un amour qui est surnaturel. C'est surnaturel. C'est un miracle que des gens d'une diversité culturelle, d'une diversité d'arrière-plan, d'une diversité sociale, d'une diversité d'opinion, d'une diversité d'intelligence, de dons, de talents, de capacités, puissent vivre ensemble en harmonie. C'est phénoménal. C'est miraculeux. Et c'est pour ça que, de plus en plus dans nos sociétés, on ne veut pas faire parler l'Église, parce que plus que l'Église va parler, plus que l'Église va s'investir dans la communauté, plus que l'Église va avoir un impact. Et ça, on a un adversaire qui le sait. Et ça, ce sont des indicateurs. Est-ce que mon amour pour Dieu grandit? Est-ce que mon amour pour les frères et sœurs grandit? Ça, c'est des indicateurs de santé spirituelle. Ça montre jusqu'où va le thermomètre. Et c'est pour ça que la deuxième victoire, c'est d'aimer. En d'autres mots, d'avoir la victoire sur la haine ou sur l'indifférence. Et au verset 2, ce que Jean nous dit, comment pouvons-nous savoir si notre amour pour les autres, enfants de Dieu, est authentique? Eh bien, il répond en disant, lorsque nous aimons continuellement Dieu lui-même, c'est-à-dire lorsque nous mettons continuellement et soigneusement en pratique ses commandements. Jean, tout au long, il commence au chapitre 1 en nous parlant de la communion avec Dieu, d'être syntonisé avec Dieu, d'être un avec Dieu, d'avoir la pensée de Dieu, que nos actions soient syntonisées avec la pensée de Dieu, à ce que la vie de Dieu en nous puisse nous amener à marcher dans la lumière et dépendre continuellement de sa grâce pour avancer dans son plan. Et ce qui est en train de nous montrer qu'être en communion avec Dieu, il y a des éléments qui sont interreliés, qui sont indissociables. Être en communion avec Dieu lorsqu'on est né de nouveau, ça nous amène à aimer Dieu, aimer les frères et sœurs dans la foi, puis mettre en pratique ce qu'il va commander. Mais ce qu'il faut comprendre également, le chapitre 5 n'est pas séparé du chapitre 4. À l'époque, il n'y avait pas de chiffre dans la lettre. Nous, on a séparé avec des chiffres, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, parce que pour qu'on puisse se repérer, pour qu'on puisse retrouver le passage rapidement. Mais à l'époque, les originaux, il n'y avait pas de chiffres. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le chapitre 5 est la suite du chapitre 4. Et Dieu nous révèle dans le chapitre 4, au verset 9, 10 et 19, comment, justement, on peut aimer Dieu. Qu'est-ce qui est à la source? Qu'est-ce qui nous amène? Parce que, moi, si je suis honnête, ça arrive des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, là, je suis peut-être tout seul de même, là, mais ça m'arrive que Dieu me dérange. Ça m'arrive que qu'est-ce que Dieu me demande de faire, ça me fatigue, ça me sort de ma zone de confort. Ça change mes plans. Ça change ma perspective. On l'a vu avec Libération 21. Je vous invite, si vous êtes sur la toile, vous n'avez pas suivi Libération 21, allez sur lesentiers.com, vous allez voir, c'est extraordinaire. Dieu nous fait passer souvent par des détours, une trajectoire qu'on n'a pas planifiée, mais pour nous amener à vivre une expérience beaucoup plus grande. Mais comment est-ce qu'on fait pour aimer Dieu davantage? Aimer Dieu, c'est surnaturel. Parce qu'il y a une différence entre aimer Dieu puis se servir de Dieu. Aimer Dieu puis manipuler Dieu à nos propres fins. Ce n'est pas pareil, ça. Aimer Dieu pour qui il est, c'est surnaturel. C'est inhumain. Même les apôtres avec Jésus, à un moment donné, ils se posent la question. Là, ils sont tellement dépassés. Jésus les déstabilise tellement. Là, il y a des apôtres qui disaient, on peut-tu vraiment être sauvé? C'est impossible d'être sauvé. Absolument, c'est impossible d'être sauvé. C'est impossible d'être un enfant de Dieu. C'est un miracle qui vient de Dieu. Et aimer Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 9, 10 et 19. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nos blocages, les endroits dans nos vies qui nous amènent à avoir de la difficulté à aimer Dieu, c'est parce que c'est des endroits où est-ce qu'on n'a pas expérimenté, où est-ce que je n'ai pas expérimenté l'amour de Dieu pour ma vie. Je ne crois pas que Dieu peut m'aimer dans cet espace-là de ma vie. Je ne crois pas que Dieu peut m'aimer pour moi-même. Je ne crois pas que Dieu est assez grand et assez bon pour moi dans cette situation-là. Il y a un blocage, il y a une incrédulité. Et il y a seulement le Seigneur qui peut briser ces murs d'incrédulité-là. Mais dans une relation intime et personnelle avec lui, c'est là qu'on doit l'attendre. Le psaume 13, un bon exemple. David, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu. Il livre son cœur à Dieu pour le voir agir. Et on voit à la fin du psaume qu'il a répondu. Si j'aime Dieu, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Si je suis en communion avec l'amour de Dieu, je vais aimer Dieu. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous aime qu'il va nous donner tout ce qu'on veut. Il va nous donner tout ce qui est bon pour nous. Que ce soit des désirs qu'on lui communique ou même des épreuves qu'on ne veut pas. Parce que les épreuves sont là justement pour nous faire découvrir combien il est présent, compatissant et il est là pour nous. Si j'aime Dieu, c'est parce qu'il m'a aimé le premier, parce que je suis inspiré de l'amour qu'il a pour moi, eh bien, je vais aimer ses commandements, puis je vais aimer mes frères et sœurs dans la foi. Mais regardez bien ça. Si ma vie chrétienne, c'est d'aimer Dieu et ses commandements, mais pas la communauté, pas mes frères et sœurs dans la foi, je vais être un chrétien qui va vivre dans la performance. Si ma vie chrétienne, c'est d'aimer Dieu et la communauté, mais pas les commandements, je vais avoir une vie chrétienne qui est inconsistante. Je vais être dans l'inconsistance. Si ma vie chrétienne est d'aimer ses commandements et la communauté, mais pas Dieu, eh bien, c'est parce que je veux devenir une référence, puis en fait, je vis dans la résistance. Si ma vie chrétienne est d'aimer ses commandements et non la communauté ni Dieu, eh bien, là, je suis dans la connaissance, dans l'intellectualisme. La connaissance est bonne, mais si elle est détachée de Dieu et de la communauté, elle n'a pas le même impact. Elle n'a pas l'impact que Dieu avait prévu pour cette connaissance-là. Si ma vie chrétienne est d'aimer la communauté, mais pas ses commandements ni Dieu, eh bien, j'ai le syndrome du sauveur, je recherche la reconnaissance. Si ma vie chrétienne est d'aimer Dieu et non la communauté, et ni ses commandements, eh bien, là, je vais souffrir d'isolement et faute de substance, je vais vivre de l'incohérence. Et c'est pour ça que les trois sont indissociables. La nouvelle naissance nous amène à aimer Dieu, à aimer les frères et sœurs et à aimer ses commandements. Mais vous allez dire, hey, juste le mot commandement, à quoi ça vous fait penser, commandement? Quelqu'un peut me dire le mot commandement, rapide comme ça. Armée, c'est ça, militaire, chef, patron, ordre, discipline. Oui, chef! Tes désirs sont des ordres. Mais regardez bien comment Jean, inspiré par le Saint-Esprit, nous amène au verset 3. C'est extraordinaire. Si nous avons de l'amour pour Dieu, nous sommes habituellement motivés à nous occuper soigneusement de ses commandements et qui ne sont pas pénibles. Dans le grec, on peut traduire ce mot-là par ne sont pas pénibles, ne sont pas sévères, ne sont pas violents, ne sont pas cruels, ne sont pas impitoyables. Les commandements de Dieu là, sont à notre portée. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi les commandements de Dieu ne sont pas pénibles? Eh bien, il y a trois choses ici. Un, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Jean 1:1, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Ce que Dieu dit, ce qu'il ordonne, ce qu'il déclare, ce qu'il commande est un avec son caractère. On ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Ce n'est pas Dieu est une chose, sa parole est une autre chose. Deuxièmement, on ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Deuxièmement, notre vision de Dieu teinte notre compréhension de ses commandements. Si justement, Si dans ma tête, Dieu est un général d'armée, le mot commandement va faire référence à l'armée. Si dans ma tête, Dieu est un bon papa, eh bien, le mot commandement va être quelque chose qui va sonner bon. Mais si dans ta tête, bon papa, ça veut dire quelqu'un qui te fait toujours des reproches, ça va teinter ta vision de Dieu et ça va teinter ta vision du mot commandement. C'est exactement ce que Jésus a essayé quand il est allé vers son peuple. Dans Matthieu chapitre 12, verset 7, il a essayé de briser cette conception-là. Il dit, « Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, je désire que vous faisiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices, vous n'auriez pas condamné ces innocents. » En d'autres, Jésus est en train de dire, « Ce n'est pas une religion de commandement. » Ces commandements-là, c'est d'aimer Dieu et d'aimer les autres, ça va te pousser à aimer les autres. Mais si, qu'est-ce qui va t'amener à aimer Dieu et aimer les autres? Chapitre 4, verset 9, 10, 19. L'amour de Dieu. Celui qui nous commande est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un chef militaire. C'est un père pour ses enfants. C'est pour ça qu'il dit, « Hey! » Ces commandements ne sont pas pénibles. La chair les résiste, mais ils ne sont pas pénibles. On voit la même chose dans Matthieu 25, 24. Celui qui avait caché sa pièce de monnaie, « Ah, je sais que tu es un homme dur. » Et tout ça vient d'une perception qu'on a de Dieu. Savez-vous, le repère culturel, je sais qu'il y en a qui vont rire, surtout les jeunes dans cette section-là, là, ben, c'est pas de votre âge, c'est plus de l'autre bord. Là. Ah, parce que ça, On s'assoit par génération. Hein, on a toujours notre lieu, là, où est-ce qu'on s'assied. Mais il y a une chanson, vous l'entendez peut-être moins là, mais on l'entendait beaucoup dans les mariages. Tu sais, dans les mariages québécois, on entendait dans le passé, qu'est-ce qu'on entendait? YMCA. On entendait, je l'ai connu là, en dansant le ya-ya. Mais il y en a une chanson, vous allez savoir tout de suite. Ne laisse pas passer ta chance d'être aimé. Le cœur est bien moins lourd. Tout le monde ensemble? Quand on est en amour. Voyez, vous la connaissez. Mais c'est en plein ça. C'est ça le message quand il dit « Ces commandements ne sont pas pénibles. » C'est pas pénible quand tu es en amour. C'est pas pénible quand tu aimes Dieu. C'est pas pénible de faire la vaisselle quand tu aimes ta femme. J'entends même pas d'amen ici. J'ai pas entendu d'amen. OK. Ouais, c'est amen en disant, ouais, je vais avoir un bon dîner ce midi, moi, là. Mais quand on est en amour, c'est jamais pénible. Sky's the limit. On est prêt à tout. Ah! T'es en amour, ton cœur palpite. Là, tu sais qu'après le travail, t'as plein de courses à faire. Mais là, ta femme te dit, j'aimerais ça que tu fasses un petit détour puis t'ailles chercher du lait. Ah oui, ma chérie! Je t'aime tellement, ça me fait plaisir! Quand tu es en amour, là, c'est pas pénible. Mais quand tu es dans une relation, tu dis, ah, tu ne m'as pas donné, mais je ne te donne pas. Là, c'est pénible. Mais si c'est ça qu'on a comme relation avec Dieu, c'est sûr que ses commandements sont pénibles. Pourquoi tant de gens, pourquoi parmi vous qui êtes sur la toile, vous résistez à Dieu? Puis je vous le dis gentiment, parce que vous avez l'impression que Dieu est un chef d'armée militaire. Vous n'avez pas compris que la colère de Dieu qui repose sur le mal est tombée sur Jésus-Christ qui a pris nos fautes. C'est ça la bonne nouvelle. Il a pris cette condamnation-là. Il l'a subi à notre place. Et ça, ça change toute la perception qu'on peut avoir de Dieu lorsque le Saint-Esprit nous éclaire sur cette vérité. Dieu est amour. Et ses commandements sont conformes à ce qui est. Et si je suis motivé à m'en occuper soigneusement, parce que comme lui, eh bien, comme je le connais tel qu'il est, eh bien, je ne verrai pas ses commandements comme lourds, pénibles, sévères, violents, cruels. Et souvent, si j'ai une mauvaise perception de Dieu, eh bien, est-ce que ça va m'amener à faire? À fuir Dieu. Mais Dieu est un Dieu personnel. Regardez toute l'histoire. Pourquoi Dieu nous a donné l'Ancien Testament? Pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est pour qu'on observe les personnages. Comment Dieu transigeait, comment Dieu intervenait envers ces gens-là, des hommes et des femmes, avec leurs faiblesses. Et d'une manière... Qu'est-ce que Dieu demandait à David? Ce n'est pas qu'est-ce que Dieu a demandé à Moïse. Qu'est-ce que Dieu a demandé à l'apôtre Pierre? Ce n'est pas ce que Dieu a demandé à l'apôtre Jean. Les reproches que Dieu a faits à l'apôtre Jean ne sont pas les reproches que Dieu a faits à l'apôtre Pierre, à Thomas, à tous les autres apôtres. Pourquoi? Parce que ce que Dieu commande à une personne, ce n'est pas ce qu'il commande à l'autre. Il nous commande toutes à l'aimer, à aimer sa parole, à suivre sa parole, à obéir à sa parole. Mais on a chacun une mission particulière, puis ce qu'il nous demande à un, ce n'est pas ce qu'il demande à l'autre. C'est pour ça qu'il a donné des dons différents. C'est pour ça qu'à un, il va demander davantage de servir, un autre à donner davantage, un autre à encourager, un autre à être compatissant, un autre à gérer, un autre à prendre du leadership. Il donne, ses commandements sont diversifiés. C'est pour ça que c'est important de le connaître et connaître la vocation qu'il nous a adressée. Et quand on exerce dans nos dons, dans la vocation qu'on est adressée, ce n'est pas pénible, ce n'est pas lourd. On est équipé pour cette mission-là. Et là, ce n'est pas un chef commandant qui nous dirige, qui nous commande. C'est un partenariat, c'est une équipe avec un Père qui nous aime d'entrer dans sa mission, dans sa vocation. Et c'est pour ça que la quatrième victoire, c'est notre foi. Tout ce qui... parce que tout ce qui est né de Dieu sort constamment victorieux d'une lutte contre les forces de ce monde. Et c'est la victoire dans cette lutte qui a triomphé sur le monde. C'est notre foi. Qui est celui qui est constamment victorieux sur le monde, mais celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ce qui arrive, c'est que on vit dans un monde où est-ce que les arts, les médias, le cinéma, la littérature nourrit continuellement, alimente continuellement un mépris à l'égard de Dieu, de sa parole, puis de son Église, de son peuple. Mais notre victoire, celle qui vient de Dieu, eh bien, justement, provient de notre foi en Jésus-Christ, qui, lui, triomphe de cette opposition-là. Notre foi, on la met en sa parole. Pourquoi? Parce qu'elle est la vérité. Notre foi, on la met en ses promesses, parce qu'il y a de l'espoir en toutes circonstances. Notre foi, on la met dans sa venue, parce qu'il existe, il est fidèle, puis il va revenir tel que promis. Notre foi, on la met en sa mort, parce que ce qu'il a accompli, eh bien, c'était prédit, et il a accompli ce qu'il a promis, et il a effacé tout acte qui nous condamne. Notre foi, on la met en sa mort parce qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Notre foi est en sa résurrection parce que le Père a accepté le sacrifice de Christ puis il l'a ramené à la mort et la mort ne pouvait pas le retenir. Notre foi est en Dieu parce que Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme. Notre foi est en Jésus-Christ parce qu'il est 100% Dieu et 100% homme. Et que ça nous prouve que Dieu a pris les fautes sur lui. Je triomphe d'une foi qui est surnaturelle, qui me dépasse, mais une foi qui repose sur quelqu'un qui est grand, une foi qui repose sur quelqu'un qui ne ment pas, qui est la vérité, une foi qui repose sur quelqu'un que ce qu'il a promis, l'accomplit. Il n'y a rien de plus solide que ça. C'est pour ça qu'on est appelé à se rassembler, à s'instruire. Pourquoi? Pour se rappeler ces choses, parce que sinon, on se laisse égarer, puis on se laisse emporter par un courant qui nous rappelle que, à quoi bon? Tout va tellement mal dans ce monde. Quand il n'y a pas d'espoir en Jésus-Christ. En conclusion, si je ne suis pas passé par la nouvelle naissance, si je ne crois pas à son amour personnel, et si je perçois le Seigneur comme un homme dur, exigeant, je ne peux pas prendre part à cette victoire-là. Et c'est pour ça que je vais inviter les musiciens à s'avancer. On va passer dans quelques instants à la Sainte-Cène. Mais si je veux aimer Dieu, si je veux aimer la communauté, les frères et sœurs, puis je veux justement mettre en pratique ses commandements, eh bien, je dois inévitablement passer par la nouvelle naissance. Réaliser que je résiste à Dieu, je suis un pécheur. Je commets des fautes. J'agresse la sainteté de Dieu. Dieu et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je dois réaliser que j'ai besoin d'un sauveur parce que je mérite d'être condamné. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a pris nos fautes, a pris notre rébellion, a pris nos péchés, a pris nos manquements. Et que lorsque j'accepte que Jésus-Christ soit mort à ma place à la croix parce que je réalise que c'est moi qui devrais être condamné, eh bien, à ce moment-là, je peux bénéficier de l'amour de Dieu qui va produire en moi un amour pour lui, un amour pour les frères et sœurs, un amour pour ses commandements. Et ce que Dieu veut, c'est que par cet amour, notre perception de lui puisse changer. Et que maintenant, aimer puisse plus devenir comme quelque chose qu'on veut consommer, mais qui vient d'une source qui nous inspire à se donner pour le bien des autres. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, puis apprends-nous à aimer comme toi tu nous aimes. Apprends-nous à connaître ton amour pour nous. Apprends-nous à connaître ta mission pour nous. Apprends-nous à aimer les frères et sœurs, à aimer les gens autour de nous et à aimer surtout, Seigneur, tes commandements parce qu'ils ne sont pas pénibles, ils ne sont pas durs. Ils sont à notre portée. Ça nous défie, ça nous déstabilise. Mais Seigneur, à chaque fois que tu nous transportes et tu nous amènes à marcher dans tes voies, eh bien, on se réjouit et on finit toujours par te rendre grâce. Merci d'avance de ce que tu vas accomplir et achever cette œuvre dans nos cœurs pour la gloire de Christ. Amen. Amen.